Les bardes et les ovates.
Ils ont des poètes qu'ils appellent bardes et qui chantent la louange ou le blâme en s'accompagnant sur des instruments semblables aux lyres.
Diodore de Sicile est un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est l'auteur de la Bibliothèque historique, ouvrage dans lequel il décrit les différentes catégories de la classe sacerdotale gauloise.
Ils ont des devins qui sont en grande vénération. Ces devins prédisent l'avenir par le vol des oiseaux et par l'inspection des entrailles des victimes. Tout le peuple leur obéit. C'est une coutume établie par eux que personne ne sacrifie sans l'assistance d'un philosophe. Car ils prétendent qu'on ne doit offrir des sacrifices agréables aux dieux que par l'intermédiaire de ces hommes qui connaissent la nature divine et sont en quelque sorte en communication avec elle. Et que c'est par cela qu'il faut demander aux dieux les biens qu'on désire. Ces philosophes ont une grande autorité dans les affaires de la paix, aussi bien que dans celles de la guerre. Amis et ennemis obéissent au chant des bardes. Souvent, lorsque deux armées se trouvent en présence et que les épées sont déjà tirées et les lances en arrêt, les bardes se jettent au-devant des combattants et les apaisent, comme on dompte par enchantement les bêtes féroces.
Jean-Louis Pronneau, archéologue au CNRS.
En ce qui concerne le personnel religieux, Posidonios d'Apamée avait fait donc son enquête très approfondie sur l'ensemble des acteurs qui intervenaient dans le domaine de la religion ou à proximité de la religion. Et il a distingué trois grandes catégories.
Les druides, les bardes et les ovates.
Quand il parle de ces trois classes d'individus, il dit les gens qui sont les plus estimés en Gaule. Donc ceux qui sont l'objet d'honneurs particuliers, ce sont ces individus-là.
Nous avons déjà parlé des druides. Quant aux bardes et aux ovates, ils exercent des fonctions particulières au sein de la classe sacerdotale.
Les vates, ou ovates, c'est comme on veut, mais enfin le terme qui était conservé en grec, notamment par Strabon et Diodore de Sicile, c'est vates, donc c'est wat normalement. Ces vates, ce sont des devins qui sont spécialisés dans la divination sacrificielle et ce sont des prêtres. Donc des prêtres qui agissent, enfin qui font des sacrificateurs en quelque sorte, et qui en même temps interprètent la divination d'après l'état des entrailles, comme ça se faisait à Rome à une époque assez ancienne.
Jean Marcal, écrivain.
Il y avait justement cette prise de contact, prise de conscience même, avec le fait que le temps n'existe pas. Et qu'on peut pénétrer aussi bien dans le passé que dans le futur.
Une autre catégorie qui est intéressante, ce sont les bardes, dont on nous dit, toujours d'après Posidonios d'Apamée, que ce sont des chantres sacrés. Donc ce sont des individus qui n'ont pas directement affaire avec la religion. Ce sont des individus qui sont là pour accompagner, donc par la musique, un certain nombre de cérémonies, de choses comme ça, et qui ont une importance considérable dans la société, parce que ce sont les seuls qui font de la musique. Et donc, ils étaient considérés comme parler aussi le langage des dieux, de même que les poètes orphiques en Grèce. À travers eux, à travers leur chant et leur poésie, d'ailleurs, c'est une musique qui est faite avec la lyre à sept cordes, qui est la lyre d'Orphée. Donc c'est certainement aussi une importation de Grèce à une date extrêmement ancienne.
Les bardes sont des musiciens, des conteurs, des poètes, composant des éloges ou des satires. Ils sont les gardiens de la tradition et de la mémoire du peuple. Leurs rimes ont un intérêt qui va bien au-delà de l'aspect artistique.
Pascal Lamour, artiste druide.
La poésie, elle est intégrée dans une nécessité, c'est-à-dire que sa poésie parle des mythes et des traditions pour qu'elles puissent se transmettre. C'est pas le poète comme ça dans les étoiles, ça a une fonction très précise. Il transmet le savoir par le biais de poésie, etc., parce que c'est des systèmes qui peuvent se retenir relativement facilement, avec des rimes internes, etc. Et donc la musique des mots fait que finalement, on peut retenir des quantités et des quantités de phrases et de phrases poétiques et les transmettre.
La transmission du savoir était donc orale. Les druides interdisaient l'écriture.
Alors les druides comme les Gaulois en général, mais enfin c'est eux justement qui en sont les responsables, ont prôné l'absence d'écrit. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'écrivaient pas, qu'ils n'utilisaient pas l'écriture et qu'ils ne connaissaient pas les langues étrangères, notamment le grec, ni l'écriture grecque. Donc on pense, et ce n'est pas possible autrement, qu'ils ont utilisé l'écriture grecque et qu'ils ont fait des notations, notamment en astronomie, parce que si on ne fait pas de notations, si on n'écrit pas un certain nombre de relevés, ben effectivement on ne peut pas avancer dans cette science. Donc eux ont utilisé l'écriture, mais en revanche, ils ont interdit l'écriture à leurs élèves, et même d'une façon générale à leurs disciples, et à l'ensemble du peuple gaulois. Ils ne tenaient absolument pas à ce que leur savoir soit diffusé, parce qu'ils avaient très bien compris que c'était une source de pouvoir absolument extraordinaire. Et effectivement, tout le pouvoir des druides, qui, à une certaine époque, était très important en Gaule, reposait donc sur le fait qu'ils étaient le seul à le posséder.
D'autres pensent plutôt que l'interdiction d'écriture répondait à une conception philosophique.
Myrcine, musicien et écrivain.
On dit qu'ils n'écrivaient pas, non pas parce qu'ils ne savaient pas écrire, mais parce qu'ils privilégiaient l'oralité, l'enseignement oral. Ils se méfiaient de l'écriture qui fige la pensée. Donc ils n'écrivaient pas par souci d'ordre philosophique. Il ne fallait pas figer la pensée dans l'écriture.
Cependant, les archéologues ont récemment découvert qu'en Irlande et au Pays de Galles, les druides utilisaient un alphabet, et ce, dès le 3e siècle après Jésus-Christ. L'alphabet ogamique, dont les lettres recelaient un sens caché, accessible à peu de gens.
Alors l'alphabet ogamique est composé de 25 caractères. Ce sont des bâtons disposés autour d'une ligne. Alors la ligne, elle n'est pas horizontale comme pour nous aujourd'hui, elle est verticale. Et on part d'en bas, donc la première lettre est en bas, c'est un bâton d'un certain côté de la ligne, le B, qui correspond à notre lettre B d'aujourd'hui. Ils s'en servaient même sur le corps, c'est-à-dire que le bras pouvait constituer cette ligne, cette fameuse ligne. Donc avec les doigts, parce qu'on a cinq doigts, on pouvait signifier ces caractères, un doigt au-dessus du bras, deux doigts en dessous, on pouvait faire des mots, finalement, sur le bras. Alors, une lettre était en correspondance avec une période de l'année. Visiblement, c'était pour que tout le monde ne comprenne pas, quoi. C'était un langage, c'était un code, quoi. Parce que l'écriture était réservée vraiment pour des choses importantes et sacrées, quoi.
On ne sait pas vraiment qui a inventé l'écriture ogamique. La légende veut que ce soit le dieu Ogma, père de la parole et de la poésie. Des théories populaires prétendent que cet alphabet était un code secret. En tout cas, ces lettres ne constituent pas une simple écriture. Elles permettaient aux gardiens de la sagesse de se souvenir de la tradition ancestrale.